Bonjour et bienvenue dans le journal d'information de Radio Albigès, comme un lundi 18 mai 2020. Au programme de ce journal, on parlera solidarité avec les couturières du Tarn et la confection de masques, culture et spectacle vivant avec l'interview de Thierry Morlet de l'ADA du Tarn pour faire un point sur le secteur culturel en temps de crise, et on terminera avec la diffusion de deux portraits de citoyens d'Occitanie avec deux artistes, le portrait de Françoise Dag qui a créé notamment les ballets occitans de Toulouse, un portrait réalisé par Radio Occitanie, et on écoutera aussi le portrait de Sylvia Moreno, artiste clown, un portrait réalisé par Radio Albigès. Comme un lundi, votre journal d'information, le lundi à midi et 18h, et aussi en podcast sur radioalbigès.com. Tout de suite, on retrouve une interview réalisée par Stéphane Leborgne avec Lauriane pour nous parler des couturières du Tarn.
Aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, on accueille Lauriane qui fait partie des couturières solidaires du Tarn. On pourrait parler de makers du fil blanc, et qui va nous présenter un petit peu cette structure, ni association ni collectif, mais en tout cas des petites mains solidaires qui vont sûrement nous aider dans les semaines à venir dans le cadre du déconfinement.
Bonjour, merci de m'accueillir sur votre radio.
C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille pour que vous puissiez nous décrire un petit peu votre action, ce que c'est que ces couturières solidaires du Tarn, et voir un petit peu comment on peut prendre contact avec vous si dans quelques jours après le 11 mai on a besoin de masques, et si vous pouvez justement fournir ces masques et sur quelle zone géographique.
Voilà, on n'a pas de statut bien particulier. C'est parti tout simplement. Sandra a créé un groupe Facebook tout simplement qui regroupait une dizaine de personnes de bonne volonté au départ pour équiper les soignants dans les premiers temps, de la mise en confinement. Effectivement, c'était surtout les soignants qui manquaient de masques et de systèmes de protection. Donc voilà, elle a commencé avec un petit groupe d'une dizaine de personnes, et au fil du temps, il y a eu de plus en plus de demandes, de plus en plus de personnes de corps de métier concernées par ces demandes, et le groupe a explosé. Là, on est à quasiment 2000 personnes. Voilà. Alors, on a mis en place des responsables de secteur, justement, pour organiser, pour éviter que les couturières courent partout, en plus de tout le travail qu'elles peuvent fournir déjà. Donc, on a mis en place des responsables de secteur qui organisent les collectes auprès des quelques couturières, et qui en plus donnent rendez-vous aux personnes qui ont des besoins. Je pense à des associations, des cabinets de kiné qui reprennent leur activité. Enfin voilà, toutes les personnes qui nous font des demandes, que ce soit des professionnels ou des particuliers, nous retrouvent ensuite pour l'échange de masques, et là on récupère éventuellement quelques dons de tissus ou d'élastiques qu'on récupère à l'attention à nouveau de nos piqueuses. Donc c'est en fait tout un circuit qui s'organise autour de la distribution et du don des masques.
Je crois qu'au départ ça venait d'un mouvement vraiment solidaire, et finalement vous avez vite été débordé par la demande au tout début du confinement. Vous avez assuré même des masques pour le corps médical, mais après vous êtes très très vite structuré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, notamment en termes de responsable de zone de secteur?
C'est ça. Alors au départ, effectivement, elle n'imaginait pas que ça allait prendre une telle ampleur. Mais comme je vous ai dit, quoi, au fil du temps, les demandes, au départ, on fournissait 10 masques à un service, puis une maison de retraite avait besoin de 200 masques. On a eu, ça s'est étendu au-delà du département du Tarn avec le service de réanimation de Rangueil qui nous a demandé 500 masques. Voilà, ça a explosé dans tous les sens. On a été un petit peu pris par ce flux au départ. Et puis on a dû se structurer, on a mis en place des espèces de secteurs avec des responsables, voilà, qui pouvaient un petit peu aiguiller, en tout cas coordonner les demandes et les offres de masques, parce que c'était trop important pour pouvoir être géré par une seule et même personne, ou pour que les piqueuses qui étaient derrière leur machine puissent gérer la demande, l'étudier et livrer derrière. Alors, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les demandes au départ, on a privilégié les soignants, les structures ont été équipées peu à peu, puis toutes les personnes qui ont dû reprendre leur activité professionnelle, on les a également équipées, surtout par le biais des employeurs qui n'arrivaient pas à trouver des équipements de sécurité. Puis maintenant, au fur et à mesure que le déconfinement approche et que les mesures sont annoncées, effectivement, de plus en plus, on doit faire appel pouvoir répondre de plus en plus de demandes de particuliers, notamment, je pense, aux masques enfants qu'on ne fournissait pas jusqu'à quelques jours. Désormais, avec la reprise et la réouverture des écoles et des collèges, effectivement, on s'est attelé aussi à cette mission-là. Donc, vous voyez, en fait, on n'a pas vraiment de cadre bien défini. On évolue franchement en fonction de la demande, en essayant de respecter aussi les consignes et les directives du gouvernement, puisque on n'a pas équipé les enfants jusqu'à présent de masques parce qu'ils n'avaient pas de raison de se trouver dehors. Et pour ne pas inciter les gens à ne pas respecter le confinement, effectivement, on avait pris la décision de ne pas les équiper. Voilà, c'est vraiment, on n'a pas de cadre bien défini. On essaye d'évoluer en fonction de ce qu'on peut faire, ce qu'on a, et surtout ce qu'on doit faire, ce qui nous semble être bon.
Et quelles sont les personnes qui interviennent dans vos structures? Il y a des couturières, je pense, des couturiers peut-être aussi, des structures qui vous aident. Et puis au niveau de la matière première, qui vous aide? Parce qu'on peut prendre des chiffons à la maison pour faire les masques, mais à un moment, il nous manque de la matière première. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé?
Exactement. En fait, tout ça, c'est le fonctionnement de notre groupe, c'est tout simplement une grande chaîne de solidarité avec des personnes qui n'hésitent pas à vider leur armoire, découper leur t-shirt, des professionnels qui font des dons, je pense à Decathlon Albi ou même des structures un petit peu plus petites comme la Mercerie de Rennes, par exemple, qui n'a pas hésité à vider ses stocks d'élastiques pour tout donner. Donc voilà, vous voyez, on fonctionne vraiment à partir de dons, qu'ils soient de professionnels ou de particuliers. Et ensuite, voilà, on a des personnes qui découpent eux-mêmes des carrières. Mais surtout, ce que je veux mettre en avant là, c'est des dizaines de couturières qui s'échinent derrière leur machine. Mais ce ne sont pas des professionnels, elles ont des métiers à part entière et complètement différents de la couture. Elles s'épuisent vraiment des heures, elles délaissent parfois le reste, elles en perdent leur machine. Voilà, vraiment, je voudrais vraiment que tout le monde se rende compte du travail énorme qu'elles ont pu fournir. Elles ont fourni plus de des milliers de masques pour tout le monde, pour des particuliers, des soignants. Voilà, vraiment, elles ont fait un travail énorme et elles méritent le plus grand respect. On a des piqueuses qui font intervenir les enfants qui dans cette chaîne de solidarité. On a des enfants qui essayent d'aider. On a voilà, c'est vraiment il n'y a pas d'âge en fait. J'ai des retraités qui nous remercient au quotidien de les avoir inscrits dans cette démarche. Enfin voilà, on n'a pas de limite ni sociale ni démographique. Enfin voilà, on n'a aucune limite sur le groupe. Il n'y a vraiment pas de structure bien définie quoi. Ah, elles sont si nombreuses. On a Aquavie, sur Castres. Enfin, on en a tellement. J'ai des équipes à Carmo qui sont exceptionnelles. À Gaillac, c'est pareil. Sur Albi, j'ai Mamili qui me tient à cœur. Zora, enfin, j'en ai des dizaines. Je les respecte toutes. Je les admire toutes. Et les couturiers. Ah, si, on en a des couturiers. On en a. Ils sont moins nombreux et plus discrets. Si, on en a. On les remercie aussi. Et effectivement, les couturiers, en fait, ils sont tellement sollicités que nous, les responsables de secteur, on s'occupe de tout ça, gérer les demandes et les approvisionner.
Alors, il y a sûrement des zones qui sont beaucoup plus faciles à toucher, mais dès que vous arrivez dans certaines zones, on dira blanches ou qui ont moins d'accès, comment vous faites pour couvrir ce besoin de masse? Parce que en zone rurale aussi, on en a besoin.
On essaye. Je vous dis pas que sur les limites du département, quand on approche des limites du département vers le 31, le 12, le 82, effectivement, on commence à avoir des manques d'offres, en tout cas, parce que les réseaux sociaux ne sont peut-être pas aussi bien développés sur ces zones un petit peu plus rurales. Mais néanmoins, oui, effectivement, on essaye de toucher à minima toutes les villes moyennes du département.
Et comment on peut vous trouver sur les réseaux, quelle adresse? Et si quelqu'un, si un auditeur en écoutant la veut vous faire un don, comment ça se passe? Est-ce que c'est du tissu, des élastiques ou des espèces que vous pouvez accepter en termes de don?
Alors par contre, on se refuse depuis le départ d'accepter des dons de l'argent. En tout cas, on ne veut pas de cagnotte, parce que ça part d'une chaîne de solidarité et que on pense que ça, l'argent va de toute façon gangréner un petit peu l'esprit du groupe. Donc on préfère faire appel à des dons de tissu, des dons d'élastique. Effectivement, moi la première, je suis pas la seule, loin de là. Dès que j'ai pu, j'ai été acheter de l'élastique pour en fournir à mes piqueuses, pour les aider en soutien. Mais par contre, voilà, je refuse. Et puis, c'est toutes les administratrices du groupe font de même. On refuse catégoriquement de toucher à une quelconque somme d'argent parce que déjà, on n'a pas le statut pour. Comme j'ai dit au départ, on n'est même pas une association. On n'a pas de statut qui nous permettrait de toucher une somme d'argent. Et d'autre part, ça nous ferait sortir de l'esprit général du groupe. Enfin, voilà, il faut se rendre sur le groupe Facebook et interpeller le responsable de secteur de votre commune. Voilà, on est six, hein. On est six responsables de secteur, Sandra, Sonia, Ambre, Muriel, Aurore et moi, Lauriane.
En tout cas, merci beaucoup de votre disponibilité, de vos initiatives qui est tout le monde. Et on espère que par l'occasion de se rencontrer pour peut-être faire une émission directement dans nos studios et raconter cette très belle aventure, cette très belle solidarité.
Exactement, c'est ce qu'on va pouvoir retirer de bon du confinement, effectivement, c'est ces élans de solidarité pour diverses causes, enfin, peu importe la cause finalement, c'est que chacun s'est mobilisé à sa façon, avec ses moyens, avec ce qu'il pouvait, pour aider les autres, et que ce soit des soignants ou pas, voilà. Juste, on aurait souhaité profiter de votre radio pour lancer un petit appel. Ça fait des semaines que les couturières, les responsables, enfin tout le monde passe beaucoup de temps et d'énergie pour aider et équiper les personnes. Les machines cassent. Aujourd'hui, la plupart des personnes vont reprendre leur activité, que ce soit à temps partiel, en télétravail ou autre, mais seront forcément moins disponibles. Donc, on essaye de maintenant mettre en place des petits ateliers. Alors, on souhaiterait mettre quelque chose en place sur la base du tutorat, c'est-à-dire qu'on voudrait continuer à fournir du tissu, nos patrons, à des personnes, à des clubs de couture, à des personnes retraitées qui savent coudre. Voilà, on voudrait aider à lancer un petit peu encore cette chaîne de solidarité et pour qu'elle perdure dans le temps et qu'elle ne s'effondre pas au moment du déconfinement, parce que la demande et le besoin de masques va perdurer, on en est persuadé. Exactement. Donc voilà, on aimerait, s'il y a des petits clubs de couture, des petites retraitées qui n'ont pas forcément Facebook, mais qui sont motivées pour s'occuper un petit peu la journée, aider les petites personnes autour d'elles dans le village ou quoi, ça pourrait nous être d'une grande aide. On leur fournirait bien évidemment les tissus, les patrons, et si on le peut, les élastiques. Et puis, on a besoin d'un maximum de savoir-faire en tout cas.
Merci encore de votre disponibilité. On est très content de vous avoir reçu et de pouvoir relayer ces initiatives des couturières solidaires du Tarn. Et bon courage pour la suite, parce que la production de masques n'est pas tout à fait terminée. Merci encore.
Avec plaisir, je vous remercie à vous.
C'était une interview réalisée par Stéphane Leborne avec Lauriane pour nous présenter les couturières du Tarn. On parle maintenant de culture et de spectacle vivant avec l'ADA du Tarn.
Thierry Morlet, bien le bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le directeur de l'ADA du Tarn, l'association départementale pour le développement des arts. Votre domaine d'action concerne autant la musique que la danse, le théâtre. Vous accompagnez la pratique et l'éducation artistique dans les établissements scolaires, les conservatoires et les autres structures associatives. Alors tout d'abord, comment l'ADA a réagi à cette crise sanitaire et cette période de confinement? Vous avez réussi à maintenir votre activité?
Alors malheureusement, le printemps est pour nous une période d'activité très 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 dense et les conséquences directes de la crise nous ont fait annuler la quasi-totalité des manifestations prévues, en reporter quelques-unes, mais relativement à la marge, et notamment dans le domaine de, vous l'avez évoqué, le domaine de l'éducation artistique et culturelle. L'ADA est aux côtés du conseil départemental est très engagé sur la politique d'éducation artistique dans ce département, en lien direct avec l'éducation nationale. Et nous avons dû annuler plus de 600 heures d'intervention d'artistes dans les écoles. Il y a plus de 200 classes primaires, de primaires et de collèges, qui se retrouvent tous les ans à l'occasion des rencontres départementales, théâtre, danse, musique, et bien évidemment qu'ils n'ont pas pu le faire, et tout ça laissant dans un grand désarroi plus d'une cinquantaine d'artistes ou de techniciens qui ont été impactés directement par la crise. Alors, il a fallu gérer tout ça dans une situation très 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 compliquée, mais nous avons, je pense que là nous sommes sur la sortie de la crise, de cette crise là de la gestion sociale, hein. Ça veut pas dire qu'elle est terminée pour, notamment pour les artistes et les intermittents, mais on va en reparler.
Alors justement, comment vont les artistes en ce mois de mai 2020, et comment vont aussi tous ceux qui accompagnent les artistes, c'est-à-dire autant les techniciens, mais les salles de spectacle vivant, les associations culturelles, les producteurs et les diffuseurs, comment vont-ils?
Eh bien, elles vont pas très bien, il faut le dire, hein. C'est quand même une situation tellement inédite, tellement soudaine aussi, que des grandes questions se posent sur la suite, surtout, hein. Je pense que tout le monde a réagi. Il y a eu un grand mouvement, vous l'avez vu, on le voit encore tous les jours, un grand mouvement de solidarité, les collectivités, les structures culturelles professionnelles, sous l'impulsion aussi du ministère de la Culture, ont maintenu quasiment toutes, hein, en tout cas, les subventions, les aides, le département du Tarn, puisqu'on est dans le Tarn, très rapidement, le président Christophe Ramon a pris la décision d'avancer, de verser un acompte sur les subventions et de s'engager sur le maintien des subventions 2019 pour l'année 2020, de façon à amortir au maximum la crise. Ensuite, les artistes, eux, et les techniciens, vous le savez, ils dépendent du régime de l'intermittence du spectacle. Il y a eu des grandes interrogations sur leur situation, et qui ont été levées depuis, notamment par l'intervention de l'engagement du président de la République de maintenir de prolonger d'une année les droits des intermittents jusqu'à fin 2021.
Alors concrètement, pour l'ADA, comment ça se passe? Est-ce que vous avez réussi à continuer à aider, à accompagner les artistes et le milieu culturel pendant cette période de crise?
Oui, alors d'une façon par la ressource, hein, effectivement, nous avons mis en place, en ce qui concerne l'ADA, nous avons payé tous les contrats qui étaient prévus, hein, donc jusqu'à la fin du mois de juin, hein, les artistes, les techniciens, les intervenants seront payés, vont être payés, sont payés pour la plupart. Nous sommes en train de mettre en place, de terminer la mise en place de cette gestion sociale de la crise. Nous les avons accompagnés par une présence. L'équipe de l'ADA continue à travailler en télétravail tout le temps, hein, avec visioconférence, réunion d'équipe, réunion avec nos partenaires, réunion avec des artistes, et de façon à apporter une ressource, à faire partager, à les informer de toutes les informations qu'on pouvait récupérer auprès des différents organismes, que ce soit la directe, la direction du travail, les informations qu'on recevait du ministère de la Culture, l'actualisation aussi de la position du conseil départemental. On a mis en place, grâce à l'association Ressources qui gère le DLA, dispositif local d'accompagnement pour le milieu associatif, qui est là dans cette période de crise un appui considérable, hein, par encore une fois la compilation de toutes les ressources existantes, l'actualisation des dispositifs, des échanges permanents sur toutes les questions administratives, sociales, juridiques, que les artistes, les techniciens, mais aussi les structures culturelles, les structures associatives qui sont moins professionnelles, qui sont parfois un petit peu éloignées de tous ces réseaux, nous avons contribué avec d'autres, mais c'est vrai que notre position départementale et notre réseau important a permis de communiquer au mieux dans cette situation.
Alors le 25 avril dernier aurait dû se tenir le FOMAC, le Forum des musiques actuelles. C'est un forum qui permet à de nombreux groupes de rencontrer des diffuseurs avec des speed meetings, des rencontres rapides de 10 minutes. Lors de cet événement, sont annoncés en principe les lauréats du Music in Tarn, un dispositif donc d'accompagnement des artistes par des professionnels. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Eh bien, effectivement, deux mots sur le FOMAC, hein, que vous suivez bien évidemment, vous, Radio Albigès et les radios associatives du Tarn qui sont très impliquées dans cette manifestation. Ben oui, cette année, c'était encore une fois près de 60 groupes qui devaient se retrouver avec une quarantaine ou 35 structures associatives ou de diffuseurs pour ces fameux speed meetings. Il y a 450 rencontres dans la journée à peu près sur Infomac. C'est un événement attendu, important, qui donne l'occasion à tout le monde de se rencontrer, mais aussi de présenter son travail, hein, bien évidemment pour les artistes aux structures susceptibles de les diffuser, mais aussi un lieu d'échange, un lieu de formation, puisqu'il y a des ateliers aussi d'information ressources sur le milieu professionnel, et aussi un moment convivial et musical et artistique, puisque les lauréats du précédent Music in Tarn sont présentés à l'occasion de ce FOMAC pendant 3 temps organisé dans la journée, trois showcases, 3 petits moments de musique partagée. C'est un événement attendu et bien évidemment c'est une grande déception cette année. Alors nous avons décalé, le FOMAC aura lieu l'année prochaine, ça c'est certain, mais le Music in Tarn, le dispositif de détection, d'accompagnement des groupes émergents du département, lui est maintenu, hein, il va être décalé dans le temps, enfin. Le principe étant d'écouter des groupes sur support numérique ou sur support, et donc il y a un jury professionnel constitué des professionnels tarnés, tous les représentants du réseau musique actuelle du Tarn, qui vont se réunir courant juin, là, hein. Nous avons un petit peu décalé la date, mais nous allons le faire, et nous allons annoncer dès que nous pourrons des lauréats pour l'édition 2020 du Music in Tarn qui, elle, finalement, ben, n'aura pas été, en tout cas cette partie-là du dispositif global d'accompagnement général n'aura pas été impactée, il peut être reporté, c'est une satisfaction.
On va d'ailleurs terminer en musique avec le groupe The Twin Soul, qui a d'ailleurs bénéficié de l'accompagnement Music in Tarn.
Tout à fait, qui était encore une cette année un coup de cœur du l'an dernier on a eu trois lauréats plus un coup de cœur, et les Twin Souls dans leur nouvelle mouture là ont vraiment, ils avaient déjà été accompagnés auparavant dans une autre formation, et leur démarche, ce duo tout à fait original, a conquis le jury et continue aussi à conquérir le public, puisqu'ils sont très actifs pendant la crise, ils ont été très très actifs sur les réseaux sociaux, ils produisent, ils enregistrent, c'est une bonne manière de les encourager encore de les accompagner pour aller un peu plus haut.
Merci bien Thierry Morlet, je rappelle que vous êtes directeur de l'ADA du Tarn, l'association départementale pour le développement des arts. Avant d'écouter, de retrouver The Twin Soul, peut-être on termine avec un mot de soutien pour tout le secteur culturel.
Oui, ben nous sommes bien évidemment, on encourage tous nos partenaires, tout le milieu associatif, le milieu artistique à ce qui va être déterminant pour la suite. C'est la solidarité, l'échange, nous retrouver encore plus fréquemment. Nous avons beaucoup l'habitude de le faire à l'ADA, mais aussi d'inventer peut-être des formes nouvelles pour la suite, en tout cas toujours dans une recherche d'équilibre et à faire valoir le rôle de la culture et de la vie artistique dans notre société, et en particulièrement dans ce département du Tarn qui est très 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 dynamique, hein, vie associative, initiatives artistiques et culturelles nombreuses, qu'elles soient institutionnelles ou plus informelles. On a la chance d'être dans un vivier où les forces vives, la dimension humaine est très très importante, et je crois qu'il faut, c'est l'occasion, nous avons eu l'occasion de le mesurer, hein, durant cette crise, il faut véritablement sur ce socle-là peut-être toujours rebondir et chercher de nouveaux souffles. En tout cas, c'est un les choses s'engagent très bien de cette façon-là. Je pense qu'on aura, il faut qu'on trouve la force de résister et de rebondir vis-à-vis de cette crise. Merci beaucoup. Merci en tout bien. Cas à vous et à votre travail.
Merci bien Thierry Morlet pour ce message positif. On se quitte en musique avec The Twin Souls. We'll be right back.
The Twin Soul sur les ondes de Radio Albigès avec une session réalisée en confinement et le titre Can Hear. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Albigès dans votre journal d'information comme un lundi 18 mai 2020. On continue avec la diffusion de deux portraits de citoyens d'Occitanie, un projet proposé par l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives.
Citoyens d'Occitanie.
Un portrait proposé par l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Citoyens d'Occitanie.
D'abord, j'ai fait mes premières armes dans un groupe folklorique. Oui. Deux groupes folkloriques. Deux. Le Ramelet Mundi. Oui. Le Ramelet Mundi. Et ensuite, un groupe qu'avec des amis nous avions créé, qui était Terro Mundino.
Oui.
Voilà, qui n'existe plus, hélas.
Non, voilà. Mais il y a un certain nombre de personnes qui doivent s'en rappeler.
Peut-être, j'espère. Avec des gens très méritants aussi. Mais entre-temps, je suis rentrée aux Beaux-Arts, moi. J'ai fait mes études, 5 ans d'études aux Beaux-Arts. Mon goût s'est affiné, mes perceptions ont évolué, et j'ai voulu sortir un peu de la traduction scénique que pouvait en faire un groupe folklorique, ce qui était déjà très méritoire. Et j'ai voulu créer les ballets occitans, c'est-à-dire magnifier, en mettant en scène les chants, les danses, les costumes de notre patrimoine, finalement. Ouais. Voilà. Donc, il fallait voir grand, sans moyens. Et j'ai rencontré, alors là, je peux le citer, celui-là, un homme sur ma route, un homme extraordinaire, c'était André Billière. André Billière était directeur départemental de Jeunesse et Sport.
Ah oui.
Il était boulevard de la gare. Et j'avais cette idée de créer des ballets, parce que j'avais vu un festival, à Toulouse d'ailleurs, de ballets d'Europe centrale, tout ça. Je me disais, mais c'est magnifique, pourquoi on n'a pas l'équivalent, nous? Et avec ce projet en tête, carton sous le bras, avec des croquis déjà, je suis allée trouver André Billière. André Billière m'a dit, mon petit, un projet comme le tien, je l'ai attendu toute ma carrière. Ça m'a fait un plaisir. Il me dit, tu as carte blanche maintenant. Tu vas chercher tout ce que tu veux pour faire d'abord tes costumes. Tu m'envoies les factures. Quel plaisir. Donc, la réputation s'est assise. On a voyagé dans plusieurs pays. En Algérie, je crois, voilà. En Angleterre, hein, etc. Voilà, voilà. Donc, je vous dis, il y avait de la couleur, du volume, les lignes qui étaient respectées. Et aussi bien pour les garçons que pour les filles, c'était très visuel, spectaculaire, etc. Voilà, donc j'ai rencontré tout un noyau de personnes qui ont adhéré, petit à petit, voilà. Et avec, voilà, et on s'est lancé. La réputation s'affirmait. Comment maintenir les ballets occitans? C'était des bénévoles. Tout le monde était bénévole. Donc j'ai pensé qu'il fallait créer une école qui puisse s'ouvrir au grand public, d'abord partager ce que nous connaissions, ensuite enseigner, continuer le travail de recherche et de collecte, et créer. Car je pense que notre culture, je l'ai déjà dit, c'est un terreau dans lequel on peut puiser et créer d'une façon originale.
Torino la mappa giunto domiro bel Torino la
Et le Conservatoire Occitan a été créé dans cet esprit, c'est-à-dire avec des gens qui pouvaient avoir un petit salaire, voilà, de 3 ou 4 personnes, voilà. Il y avait Renat Jurier qui enseignait la langue, un peu le chant. Claude Sicre, que j'appelle Filiou, Donc, à un moment donné, quand il a vu que les Occitans périclitaient, il a eu envie de reprendre tout ça en main. Alors Xavier Vidal, c'est un garçon aussi bourré de talent, hein, bourré de talent. Un cœur énorme, il fait des enquêtes, il est ethnologue, il est musicien, il est chanteur aussi. Je l'ai entendu chanter avec Renate Jurier, voilà, et il m'a dit que je pouvais compter sur lui. Et non, c'est formidable, et c'est mutuel.
Ce portrait, réalisé par Radio Occitanie Grazac dans le cadre d'une convention entre la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et les radios associatives représentées par l'ARA et le CRLO.
Citoyens d'Occitanie.
Un portrait proposé par l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Citoyens d'Occitanie.
Sylvia Moreno, je suis comédienne et je suis responsable artistique de la compagnie Cavaluna. Et une des choses que je fais chez Cavaluna, parmi d'autres, c'est que j'incarne le personnage de Candelita, la clown Candelita. Dans les cadres du travail des Cavaluna, on fait fondamentalement deux choses. Une, en tant que compagnie de théâtre, on fait des spectacles. Et puis, depuis toujours, il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, un engagement artistique humain, je dirais, c'est de venir sur les terrains, créer et explorer avec les habitants, avec les autres. Depuis longtemps, on développe, on fait ce que nous on appelle des créations. Donc c'est des projets, des actions de terrain socioculturels dans lesquels nous, on vient explorer les liens aux autres. Les liens aux autres, ça veut dire les liens entre habitants, ça veut dire les liens entre nous artistes et les habitants, entre des associations et les artistes et les habitants, entre les institutions, les associations, voilà, qu'est-ce que ça veut dire les liens à l'autre dans tous ses sens. On aime bien faire ça en alliant la création artistique, puisque nous sommes artistes, et l'action citoyenne, puisqu'on vient le faire dans les quartiers avec les habitants, dans l'espace public. Pour nous aussi, la notion de faire dans l'espace public est fondamentale puisque nous sommes une compagnie d'état de rue à la base et parce que l'espace public, c'est l'espace où on se rencontre, où on vit ensemble. Dans les villes, dans les quartiers, comment est-ce qu'aujourd'hui on vit ou on ne vit pas ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les réalités? Donc, et comment faire ça à travers les outils artistiques que nous on a? Et pour ça, on travaille souvent, on utilise souvent ce personnage de Candelita, parce que le clown permet de venir nommer, de venir visiter, de venir questionner les réalités avec profondeur, mais toujours avec du ludique, avec l'humour, la naïveté qu'il peut avoir un clown. Avec un clown est toujours dans les ici et dans les maintenant, dans ses ressentis. Et puis un clown, même si ça va pas, il trouve la manière de que ça aille. Même s'il tombe 10 fois, bah, il va finir par trouver la manière de se relever ou de se trouver bien par terre. Voilà, il va retourner à un moment donné la situation en quelque chose de constructif. Et ça, je pense que de nos jours, c'est important. Jusqu'à aujourd'hui, les échanges, ils ont été très constructifs, très positifs, très émouvants. Candelita lit des vrais rapports, des vrais... Il y a des vrais liens qui se font avec les habitants. Ça nous a surpris parce qu'en début, on s'est dit « c'est beau, c'est un clown, c'est des adultes ». Et finalement, tout le monde joue les jeux et surtout, il y a vraiment des vrais rapports qui se créent. Parce que finalement, on est tous un peu pareils. Hein. On a tous envie et besoin de parler, envie et besoin de se retrouver, de partager, d'avoir un moment de légèreté, de tendresse. Et ça, c'est finalement le grand objectif, en fait. C'est que, sous prétexte que Candelita est là, finalement, les habitants passent un moment ensemble. Il y a d'autres artistes qu'on invite, qui viennent et qui partagent aussi du temps avec les habitants et entre eux. Des associations aussi locales qu'on invite et qui, du coup, viennent. Ce prétexte ludique et complètement décalé, déjanté, fait que finalement on se retrouve dans la rue à faire quelque chose ensemble.
Sylvia Moreno, alias Candelita, le clown de la compagnie Cavaluna. Ce portrait est réalisé par Radio Albigès dans le cadre d'une convention de partenariat entre la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et les radios associatives représentées par l'ARA et le CRLO. Toujours branché sur les ondes de Radio Albigès, vous venez d'écouter deux portraits de citoyens d'Occitanie, un projet porté par l'ARA, l'Assemblée Régionale des Radios Associatives. C'est la fin de ce journal d'information, comme un lundi 18 mai 2020. N'hésitez pas à réagir à cette émission en nous envoyant un mail à radioalbigès@gmail.com. Vous pourrez retrouver cette émission très prochainement en podcast en passant par notre site internet. En vous souhaitant une bonne écoute de la suite de notre programmation. Al plaisir, brave monde.